Les zones d'ombre de l'histoire.
Et si les Américains avaient délibérément laissé l'armée japonaise bombarder la base de Pearl Harbor ? Théorie complotiste ou hypothèse plausible ? L'attaque de la plus grosse base américaine du Pacifique par l'aviation japonaise fera plus de 2400 morts et un peu plus de 1100 blessés. Mais elle se soldera aussi par l'entrée en guerre des États-Unis, qui étaient jusqu'alors restés à bonne distance du conflit mondial. Aujourd'hui encore, le bombardement de Pearl Harbor est considéré aux États-Unis comme une tragédie, à l'égal des attentats du 11 septembre. Quelques semaines après l'attaque, des interrogations sont apparues, notamment sur l'attitude du président Roosevelt. Certains n'ont pas hésité à dire que le locataire de la Maison-Blanche était au courant et avait laissé faire, obtenant ainsi le prétexte à une entrée en guerre des États-Unis. Il est vrai que dès le lendemain du drame, le Congrès va autoriser le président à déclarer la guerre au Japon. Vrai aussi qu'avant l'attaque, la majorité des Américains étaient hostiles à une implication de leur pays dans la guerre et que la tendance va totalement s'inverser. Ces deux faits sont logiques et ne constituent absolument pas une preuve que Franklin Roosevelt et ses conseillers étaient au courant des intentions japonaises. Mais il existe tout de même certains faits qui, s'ils ne permettent pas de valider un supposé machiavélisme du pouvoir à Washington, suscitent tout de même quelques interrogations. Il y a par exemple la totale impréparation de la base à une attaque ennemie. Mais il y a aussi les informations très précises d'un agent double, renseignements qui ne laissaient aucun doute sur les intentions du Japon et que le FBI a reçu près de 6 mois avant l'attaque. History in every century records an act that lives forevermore. We'll recall as into line we fall the thing that happened on Hawaii shore. Let's remember Pearl Harbor as we go to meet the foe. Let's remember Pearl Harbor as we did the Alamo. We will always remember how they died for liberty. Let's remember Pearl Harbor and go on to victory. Le 27 novembre 1941, l'état-major de l'armée américaine informe le général Short et l'amiral Kimmel, qui commandent respectivement les forces aériennes et marines de la base de Pearl Harbor, qu'une attaque japonaise pourrait se produire. Le renseignement américain a en effet déjoué une partie des codes utilisés par le Japon pour crypter ses communications. Malgré le fait que ce décryptage est partiel et que le Japon semble utiliser la désinformation pour protéger ses transmissions, Les agents de renseignement US savent que depuis janvier 1941, sous l'autorité du général Yamamoto, l'armée nippone prépare une attaque d'envergure contre une base américaine. Mais étrangement, tant le général Short que l'amiral Kimmel pensent que seules des actions de sabotage sont à craindre. Ce qui leur fera prendre une décision qui s'avérera très préjudiciable lors de l'offensive nippone. Le 2 décembre, un officier de renseignement informe l'amiral Kimmel que les porte-avions japonais observent un silence total. Kimmel lui aurait alors répondu « Vous voulez dire que s'il se rapprochait de nous, on ne le saurait pas ?» Le lendemain, l'amiral reçoit une transmission de Washington, lui indiquant que les diplomates japonais en poste dans la capitale américaine ont reçu l'ordre de détruire les codes leur permettant de décrypter les transmissions. À l'évidence, quelque chose se prépare. Mais l'amiral ne réagit toujours pas et apparemment, il ne transmet pas l'information au général Short. Le même jour, 3 porte-avions quittent la base. Ce départ, qui prive Pearl Harbor d'un soutien aérien précieux en cas d'attaque, sera abondamment commenté et exploité par les tenants d'une attitude complice de l'état-major américain. Il est un fait que l'amiral Kimmel ne s'élève pas contre le départ de ses navires. De son côté, le général Short n'est pas davantage préoccupé. Il ne met pas les dépôts de carburant sous protection et ne veille pas à l'approvisionnement en munitions de la défense anti-aérienne. Mais les Américains vont aussi jouer de malchance. Le 6 décembre, le ministère des Affaires étrangères nippon envoie un très long message codé à son ambassade de Washington. Les services de renseignement US parviennent partiellement à le décrypter. Cette lettre annonce la rupture des relations diplomatiques. Mais elle contient aussi une autre information que le renseignement US ne parvient pas à déchiffrer. La déclaration de guerre. Toutefois, même sans ce renseignement, le général Marshall est suffisamment inquiet de la teneur du courrier pour envoyer un message d'alerte à toutes les bases américaines en Asie du Sud. Le décalage horaire et un problème technique feront que Pearl Harbor recevra le message après l'attaque. Dans la nuit du 6 au 7 décembre, un peu avant 4 heures du matin, un sous-marin inconnu est repéré aux abords de l'île d'Oahu, où se trouve la base américaine. Un destroyer part à sa recherche, sans succès. L'amirauté ne transmet pas l'information au commandement général. Un peu plus tard, dans la nuit, un autre sous-marin est repéré et sera détruit cette fois. Un peu après 6 heures, les premiers avions japonais décollent de 6 porte-avions. Ils sont bien repérés par un radar de la base et l'information est transmise, mais elle n'est pas prise au sérieux. Certains militaires n'ont pas confiance dans cette technologie récente. Et on pense qu'il s'agit de bombardiers en provenance de Californie s'apprêtant à ravitailler avant de repartir pour les Philippines. C'est une nouvelle preuve qu'à Pearl Harbor, on ne voulait pas croire à une attaque nippone. Le premier des 183 avions japonais qui se dirigent vers Oahu est un appareil de reconnaissance. Comme son apparition dans le ciel ne suscite aucune réaction, il envoie le fameux message « Pearl Harbor dort ». C'est alors un déluge de bombes qui s'abat sur la base, qui est dans l'incapacité de faire face. Un message est alors diffusé. Pearl Harbor est attaqué, ce n'est pas un exercice. On compte déjà les morts, mais surtout, les chasseurs US qui sont encore en état de voler ne peuvent pas décoller. Craignant uniquement des tentatives de sabotage, les avions avaient été parqués aile contre aile afin de faciliter leur surveillance. Ceux qui n'ont pas été touchés par les bombes sont pour la plupart coincés entre les épaves. Mais la base américaine n'en a pas fini. Une seconde attaque se produit. 165 appareils japonais pilonnent à nouveau les installations militaires US. À 10 heures, tout est fini, c'est le désastre. On va dénombrer 2403 morts, dont 68 civils et 1178 blessés. Le bilan matériel est, lui, plus contrasté. Ce sont surtout les avions qui ont été atteints. 188 appareils sont détruits. On prétendra qu'entre 80 et 120 navires ont été touchés, mais en réalité, seuls 18 ont été plus ou moins touchés. 3 ont été coulés, dont 2 vieux cuirassés et un navire cible. Les 15 autres navires atteints seront réparés et reprendront la mer à peine un an plus tard. Aux États-Unis, c'est le choc. Le président Roosevelt condamne une attaque perpétrée sans déclaration de guerre. Le Congrès vote à l'unanimité moins une voix la résolution autorisant à déclarer la guerre au Japon. Le peuple américain, qui avait été marqué par les morts de 14-18, était jusqu'à cette attaque majoritairement hostile à l'entrée en guerre de leur pays, et même favorable à une position de repli, America First. Au lendemain du bombardement, le peuple soutient massivement l'entrée en guerre.
Les zones d'ombre de l'histoire sur Radio Campus Paris.
Depuis les années 30, la tension montait lentement mais sûrement entre le Japon et les États-Unis. Lancé dans un processus de développement économique important, l'Empire du Soleil Levant avait de plus en plus besoin de matières premières et ressources naturelles. Tokyo se lança alors dans une politique expansionniste aux dépens de ses voisins immédiats. Cet expansionnisme menaçait également les intérêts américains dans la région. Dès 1931, l'armée japonaise pénètre en Chine. Sans intervenir directement, les Américains apportent un soutien logistique à Pékin. Cela ne freine en rien les ardeurs de Tokyo. En 1937, réélu notamment sur une promesse que les États-Unis ne prendront pas part à un conflit sauf s'ils sont attaqués, Roosevelt tient tout de même un discours dans lequel il condamne toutes les dictatures, y compris celle du Japon. Mais le président et ses conseillers savent que les tensions sont multiples. En Europe, il n'est un secret pour personne que le régime nazi ne va pas se contenter longtemps de ses frontières. Et en Asie, force est de constater que la présence japonaise s'intensifie en Chine. En décembre de la même année, une canonnière américaine est coulée par l'armée nippone lors du massacre de Nankin. la tension monte encore. En 1939, Washington rompt le traité commercial qui le liait à Tokyo et décide un embargo sur les métaux notamment. En 1940, le Japon rejoint les forces de l'Axe et profite de la débâcle française pour s'implanter en Indochine. L'aide américaine apportée aux soldats français est inefficace. Le 26 juillet 1941, le président Roosevelt renforce l'embargo, incluant maintenant les livraisons de pétrole. Cette décision sera déterminante car le Japon est presque totalement dépendant de l'extérieur pour ses approvisionnements pétroliers. Si l'embargo se prolonge, les livraisons d'or noir auront diminué de 90% d'ici la fin de l'année. Tokyo est donc pris à la gorge. Soit l'archipel renonce à sa politique expansionniste, soit il desserre l'étau par une confrontation militaire. Mais au Japon, on sait que si l'option militaire est retenue, la guerre devra être courte, le pays ne pouvant compter que sur 2 ans de réserves pétrolières. Les partisans de l'option militaire se trouvent bien entendu dans l'armée. L'empereur et son premier ministre sont quant à eux favorables aux négociations. À la conférence impériale du 6 septembre 1941, les négociateurs se voient accorder quelques semaines pour parvenir à une solution. Mais en parallèle, on prépare la guerre. À l'automne, un plan proposé par Tokyo est rejeté. Car à Washington, on sait que le Japon prépare une intervention. À cette époque, les Américains pensent que les objectifs visés pourraient être soit les forages pétroliers d'Indonésie, soit la base des Philippines. Le 3 novembre, un premier plan pour une intervention militaire est proposé à l'empereur Hirohito. Il le valide. Et le 1er décembre, il prend connaissance du plan définitif conduisant à l'offensive de Pearl Harbor.
Les zones d'ombre de l'histoire.
Les faits montrent qu'il y a eu des manquements dans la sécurisation de la base de Pearl Harbor et que ses responsables ont sous-estimé les intentions du Japon. Les États-Unis ont aussi joué de malchance. Mais on peut aussi s'interroger sur la manière dont le FBI s'est comporté face à deux informations capitales qui lui ont été transmises en août 1941, soit 6 mois avant l'attaque. À l'époque, l'agence américaine est le seul service de renseignement. Elle est dirigée par le tristement célèbre Edgar Hoover. Durant cet été 41, un agent double en provenance d'Angleterre arrive aux États-Unis. Il s'appelle Dusko Popov. Ce jeune homme, d'origine serbe, est un agent de l'Abwehr, les services de renseignement de la marine du Troisième Reich. Il y est entré au début de la guerre grâce à un de ses amis qui travaille lui aussi pour l'amiral Canaris. Mais tous deux sont en fait des agents doubles. Sincèrement anti-nazis, ils pensent que c'est de l'intérieur que l'on peut combattre le système efficacement. Après la débâcle française de juin 40, Hitler compte s'attaquer à l'Angleterre. Popov, comme d'autres espions, est envoyé outre-Manche. Mais lui n'a pas besoin de pression pour collaborer avec l'Intelligence Service, puisque c'est ce qu'il souhaite. Recruté par le département Double Cross, double jeu en français, Popov devient donc un agent double et transmet à l'Abwehr des informations qui lui sont données par ses employeurs britanniques. Il donne entière satisfaction aux deux services. Au printemps 1941, son officier traitant pour l'Abwehr lui apprend qu'il va devoir partir aux États-Unis afin de reconstituer un réseau d'espions. Peu de temps avant son départ, on lui confie un travail supplémentaire. Il lui est demandé d'obtenir des informations très précises sur la base de Pearl Harbor, comme la position des stocks de carburant ou de munitions, le nombre de sous-marins ou d'avions, etc. Il ne fait aucun doute que l'enquête a été commandée par le Japon. Simultanément, Popov apprend que les Japonais ont demandé à leurs alliés allemands des renseignements sur une attaque menée par la Royal Air Force dans la nuit du 11 au 12 novembre 1940. Contre la flotte italienne stationnée dans le port de Tarente, attaque se soldant par la destruction de la moitié de la flotte. Tokyo aurait même envoyé des spécialistes sur place. Le recoupement des deux informations fait clairement apparaître les intentions du Japon. La relation que Dusko Popov fait de ses contacts avec le FBI est tout simplement accablante pour l'agence américaine et pour son directeur, Edgar Hoover. Quand l'agent double arrive à New York, le directeur du FBI est en vacances. L'agent qu'il reçoit lui fait vite comprendre qu'il ne croit pas vraiment à l'importance de ses renseignements. Popov est perplexe. On le soupçonne au mieux de posséder des informations peu fiables ou pire, de vouloir intoxiquer le FBI, alors que son travail est reconnu par les services anglais. Mais le Serbe découvre bientôt que le FBI le fait suivre. Rappelant à l'agence américaine qu'il a été envoyé par l'Abwehr pour créer un réseau d'espions au service du Troisième Reich et que ce réseau sous son contrôle pourrait évidemment être d'une grande utilité pour le renseignement américain, l'agence s'oppose à cette initiative. Popov commence à être dans une situation délicate auprès de ses employeurs de l'Abwehr, car il ne peut remplir sa mission. Contraint d'attendre le retour de vacances d'Edgar Hoover, l'espion prend du bon temps. Appréciant la compagnie des jolies femmes et aimant la vie mondaine, il fréquente les nuits new-yorkaises et commence à séduire. Il emmène une de ses conquêtes en Floride. Toujours suivi par le FBI, on lui fait savoir qu'il a enfreint les règles des mœurs en partageant le lit d'une femme qui n'est pas son épouse. Dans les premiers jours de septembre, alors que Dusko Popov est aux États-Unis depuis près de 6 semaines, Edgar Hoover daigne le recevoir. L'entrevue est catastrophique. Hoover, muni d'une fiche détaillée sur les activités de l'espion depuis son arrivée, lui reproche un comportement immoral et une vie dissolue. Puis, il lui dit qu'il est comme tous les agents doubles, ne faisant cela que pour l'argent. Connaissant le racisme du patron du FBI, il ne fait aucun doute que pour lui, Popov n'est qu'un Ruskov de seconde zone. D'ailleurs, il conclut l'entretien en lui disant que le FBI est parfaitement au courant depuis longtemps que le Japon planifie une attaque sur Pearl Harbor. Toutefois, Hoover ne manque pas de s'intéresser à la technique du micropoint inventée par l'Abwehr et qui permet de miniaturiser un document. Elle a été utilisée pour le questionnaire sur Pearl Harbor remis à Popov. Le patron du FBI attribuera à ses services l'invention de cette technique. Edgar Hoover a donc eu entre les mains les éléments prouvant que le Japon envisageait une attaque sur la base américaine de Pearl Harbor. Qu'en a-t-il fait ? Son mépris des étrangers l'a-t-il conduit à penser que Popov tentait d'intoxiquer le FBI ? Pourtant, Hoover ne devait pas méconnaître que le Serbe était très bien noté par ses employeurs britanniques. Mais le patron du FBI a aussi pu prendre au sérieux les renseignements sans rien en laisser paraître. Les a-t-il transmis à la Maison-Blanche ? On peut aussi se demander pourquoi le gouvernement anglais n'a pas choisi un canal plus officiel pour communiquer ses indices à Washington. Les services britanniques connaissaient mal le FBI et son patron. Ils ont peut-être pensé que la crédibilité de leur agent était une garantie suffisante. De nombreux mystères subsistent autour de cette affaire. Zones d'ombre qui ne seront sans doute jamais dissipées. Enfin, signalons que Ian Fleming, qui fut un agent de l'Intelligence Service, rencontra plusieurs fois Dusko Popov. À l'inverse d'Edgar Hoover, il fut sans aucun doute très séduit par l'espion, au point de le faire passer à la postérité sous les traits de son personnage fétiche, James Bond. Je vous retrouve dans 15 jours pour un prochain numéro des Zones d'ombre de l'histoire.